Vous écoutez Radio Campus 106,6, comme chaque mercredi à 17h30, vous avez rendez-vous avec le magazine Lilin Info. Un magazine donc consacré à l'université de Lille 1, bien sûr, pour aborder un peu toutes les facettes, que ce soit la recherche, les côtés administratifs, les études, les partenariats. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de la recherche sur le cancer, avec Madame Natalia Prevarskaya. Bonjour Madame.
Oui, bonjour.
Donc, vous êtes chercheuse, professeure de classe exceptionnelle et directeur du laboratoire de physiologie cellulaire, un laboratoire de l'INSERM, c'est bien cela?
Oui, tout à fait.
Donc, vous êtes à l'université Lille 1, vous avez une carrière internationale également?
Oui. Oui, je suis venue à Bordeaux il y a à peu près 16 ans déjà. Avant, j'étais aux États-Unis et d'origine, je suis de nationalité ukrainienne. Et je suis à Lille depuis à peu près 10 ans maintenant.
Voilà, donc la recherche sur le cancer, c'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup de cancer, déjà parce que la population vieillit d'une manière générale avec... On va dire peut-être de meilleures conditions de vie qui font que les gens vivent plus âgés, mais qui dit plus âgé dit souvent en fin de vie plus malade également, et le cancer est un des facteurs de décès très, très élevé.
Oui, nous travaillons aussi sur une thématique bien particulière, comme vous avez dit, liée au vieillissement, c'est le cancer de la prostate, qui est la première cause de mortalité par le cancer chez l'homme.
Alors effectivement, quand on dit cancer, il y a prévention et traitement. Vous intervenez à quel niveau?
Nous recherchons plutôt les marqueurs de diagnostic précoce, parce qu'un des problèmes de cancer de la prostate, c'est surtraitement, parce qu'il n'y a pas de diagnostic vraiment fiable. Donc nous cherchons les marqueurs. Et deuxièmement, nous cherchons des nouvelles cibles pour les stades plutôt tardifs du cancer de la prostate, parce que non plus il n'y a pas de médicaments spécifiques pour ce type de traitement.
Est-ce que, selon vous, le cancer de la prostate, c'est quelque chose qui est héréditaire ou ça dépend des conditions de vie, voire d'alimentation des personnes?
C'est plutôt dépend des conditions de vie et d'alimentation, parce que pour vous dire un exemple, au Japon, il y a 0 cas de cancer de la prostate, mais quand les Japonais arrivent aux États-Unis, ils développent le cancer de la prostate. Donc actuellement, l'hypothèse est quand même que c'est le problème plutôt d'environnement et de nutrition.
Donc, est-ce que vous avez une idée d'éléments ou d'aliments qui figure dans nos pays où les gens ont quand même souvent ces problèmes liés à la prostate par rapport à des pays comme le Japon qui en sont épargnés?
Oui, surtout au nord de la France, il y a beaucoup plus de cancers de la prostate que dans le sud. Est-ce que c'est lié à l'environnement spécifique? C'est difficile à dire. Est-ce que c'est lié à l'agriculture ou les herbicides? Là aussi, il y a un projet que nous développons, c'est le rôle des facteurs environnementaux sur le développement du cancer de la prostate. Et effectivement, il y a quand même des effets non désirables de plusieurs herbicides sur le développement de ces tumeurs. Et éventuellement aussi, il y a quand même aussi la différence de culture alimentaire, donc ça pourrait venir de là également, cette différence que les Japonais mangent quand même le poisson, le DHA, donc tous ces facteurs anti-inflammatoires, et probablement l'Europe, c'est beaucoup moins utilisé encore.
Donc s'il fallait résumer, mais nous n'en resterons pas là, hein, on peut dire que manger du poisson, ça peut favoriser le fait de ne pas être malade de cette fameuse prostate, et peut-être éventuellement les matières grasses animales, etc., c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la santé.
Tout à fait, et pas seulement pour le cancer de la prostate, pour beaucoup d'autres cancers, c'est également le cas. Et bon, c'est aussi quand même un petit peu de simplification, dire que quand on mange le poisson, on n'aura pas de cancer de la prostate. Il y a plusieurs d'autres facteurs à éviter. Et bon, je ne suis pas un médecin, je suis chercheur, donc je ne peux pas donner vraiment des conseils, qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à la mode de vie et l'environnement, la nutrition. Et faire aussi, surtout développer en ce qui nous concerne la recherche plus pour la médecine personnalisée, pour voir les facteurs plutôt individuels, comme vous avez dit, de rechercher est-ce qu'il y a des cas héréditaires, par exemple, en ce qui concerne les métastases osseuses, qui est souvent le cas de développement de ces maladies.
Alors, chercher des solutions, aussi définir les meilleures conditions pour éviter ces maladies, ça fait bien sûr partie de votre travail. Est-ce qu'il y a aussi dans votre travail un rôle de consultant, de conseil auprès d'institutions, sinon de la population?
Bien sûr, nous travaillons avec les associations telles que l'Association de recherche contre les tumeurs de la prostate. Notre équipe est également labellisée dans la Ligue nationale contre le cancer. Donc, il y a souvent des exposés au grand public de nos chercheurs. Et nous essayons aussi de donner des formations à l'INSERM, mais également à l'université, aux étudiants. Et également aussi, nous travaillons avec les industries pharmaceutiques pour trouver les nouveaux facteurs, on peut dire, environnementaux en partie actuellement, pour les marqueurs précoces.
Alors, je ne sais pas si c'est dans votre capacité, mais la Ligue contre le cancer a des financements qui viennent en partie des dons. Est-ce que vous pouvez, à votre niveau, définir que ces dons sont de façon importante réinjectés dans la recherche?
Oui, bien évidemment, parce que quand même, grâce aux ces associations, on peut maintenant avancer cette recherche qui coûte malheureusement très cher, et donc développer surtout des modèles précliniques, les modèles qui peuvent nous permettre de trouver des nouvelles cibles et de nouveaux médicaments.
Donc cette recherche, elle est forcément aussi liée à la capacité d'interpréter des résultats qui sont faits dans d'autres pays. Vous aviez parlé du Japon tout à l'heure. Est-ce que cette recherche s'implique plutôt dans les endroits, dans les pays concernés, ou est-ce qu'elle intéresse déjà d'une manière générale la communauté internationale scientifique?
Bien sûr, vous avez raison, c'est la recherche internationale et les Japonais s'intéressent aussi au cancer de la prostate. Et c'est la recherche quand même aussi groupée de plusieurs laboratoires internationaux et on se pose les mêmes questions au niveau des congrès internationaux. Donc la réponse, oui, bien évidemment, il n'y a pas de science française ou science japonaise, c'est la science internationale.
Est-ce que vous jugez que dans notre région, puisqu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais, les études épidémiologiques sont suffisamment importantes, ou est-ce qu'elles devraient être davantage développées, ciblées et confrontées peut-être à d'autres études internationales?
Je pense qu'il y a une tentative sérieuse, justement maintenant, avec le nouveau projet qui s'appelle CIRIC. C'est le projet régional qui est déposé au ministère de la Recherche, en partie lié aussi à l'épidémiologie des cancers du Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est les cancers spécifiques de cette région.
Notre région est évidemment un peu dans le collimateur, on va dire, du ministère de la Santé publique, parce que les indicateurs globalement sont assez mauvais dans de nombreux domaines. Est-ce que vous jugez que les évolutions de la recherche et de l'application de cette recherche peuvent amener de réels progrès et à quelle échéance?
De réels progrès, c'est toujours difficile à estimer à notre niveau, mais je peux déjà dire qu'il y a de réels progrès pour plusieurs types de cancers, par exemple de lymphome, où c'est la recherche qui a quand même permis d'identifier le nouvel anticorps qui est maintenant utilisé pour le traitement de ces maladies. Et à quelle échéance, c'est vraiment la chance avec beaucoup de travail qui pourrait permettre de dire, bon, dans 5 ans peut-être.
La première version, on va dire, de l'université lilloise était pilotée par un certain Louis Pasteur. Est-ce que vous jugez que dans quelques années, de grands noms scientifiques sortiront des universités de Lille? Est-ce que les moyens actuellement qui semblent devoir se concrétiser sur cette zone de France par les pouvoirs publics pourraient permettre de s'attacher des services scientifiques de renom?
Oui, je peux déjà donner un exemple de diabète. Philippe Frogel, qui est professeur à Lille 2, qui a organisé le nouveau institut EGIDE, normalement, qui sera mondialement reconnu dans le domaine du diabète, et sûrement les nouveaux traitements sortiront grâce à cette tentative.
Donc ici, nous sommes à l'Université Lille 1. L'Université Lille 2 a cette dimension médicale, d'une manière générale, droit et santé, mais la partie médicale est forcément importante. Comment s'établissent les collaborations entre Lille 1 et Lille 2, puisque certains travaux sont communs, ou du moins amènent votre communauté à se rapprocher de celle de Lille 2?
Oui, tout à fait, vous avez entièrement raison. Maintenant, avec la création de presse, c'est-à-dire une seule université nord de France, il y a beaucoup plus de possibilités de communication entre les trois universités, Lille 1, Lille 2 et Lille 3. Et en ce qui nous concerne, notre laboratoire, c'est le laboratoire de recherche fondamentale, mais qui communique fortement avec l'hôpital, parce que nous travaillons avec les cliniciens de l'hôpital de Lille 2 et aussi de la Cato. L'Université catholique de Lille.
Est-ce que dans cet ensemble, ce dispositif d'ensemble qui a pour objet de trouver des solutions médicales, thérapeutiques ou même d'anticiper les problèmes des personnes en termes de santé publique, est-ce que vous avez aussi des conseillers, l'appui de praticiens comme par exemple les personnes diététicienne ou des choses comme ça?
Oui, oui et non. C'est-à-dire que nous travaillons en collaboration très étroite avec Brigitte Mauroy, qui est le professeur, le chef de service d'urologie de l'hôpital catholique de Lille. Et là, à son niveau, il y a bien sûr le service de diététicien et d'autres conseillers. Nous, comme le laboratoire de recherche, on travaille par collaboration avec des cliniciens et les cliniciens qui nous donnent, on peut dire, qui nous font des objectifs et on essaie de répondre à ces objectifs par nos moyens de recherche.
Donc si on revient au cancer de la prostate, qui est un cancer qui peut intéresser les personnes, je veux dire, en moyenne à partir de 55-60 ans. Hein, c'est quand même l'âge où ça peut se révéler.
Oui, mais c'est encore l'âge, on peut dire, précoce pour ce type de maladie, heureusement, parce que c'est quand même le cancer qui voit se développer vers 70 ans.
Et donc, l'idée aussi, c'est que ces personnes atteintes d'un cancer puissent vivre dans de meilleures conditions une fois qu'elles en sont victimes, on va dire. Est-ce qu'on peut constater que la durée de vie des personnes qui sont atteintes d'un cancer de la prostate a tendance à s'améliorer et de même que les conditions de soins et d'une manière générale de prise en charge?
Effectivement. Parce que il y a quand même aujourd'hui le développement de traitements aussi personnalisés. Il y a également les diagnostics précoces avec le PSA, même si ce marqueur n'est pas très fiable, mais il y a la possibilité de repérer les cancers pas trop tard et après les traiter en bonne condition. Donc moi je constate que depuis 10 ans, cette maladie est reculée quand même un petit peu et surtout beaucoup mieux surveillée.
Thank you. Natalia Prevarskaya, donc cette recherche sur l'Université Lille, est-ce qu'elle a à disposition des outils performants, des technologies particulières, j'allais dire que le monde nous envie entre guillemets, mais qui pourraient aussi être un des atouts, un des attraits de notre région?
Oui, tout à fait. Et surtout ici, à l'Université de Lille 1, nous avons cette possibilité incroyable de travailler sur le projet multidisciplinaire physico-chimique et la biologie, avoir la collaboration avec l'Institut de recherche interdisciplinaire pour l'imagerie cellulaire, par exemple, ou pour les techniques de cristallographie. Ça, c'est la possibilité incroyable de synergie de plusieurs techniques pour un seul projet. Et je trouve que ça donne beaucoup de possibilités pour notre région.
Est-ce que des événements sont organisés dans l'année, soit à l'extérieur et auxquels vous participez, soit ici, à l'Université Lille 1, des rencontres entre chercheurs de votre domaine?
Oui, il y a des congrès que j'essaie d'organiser. Par exemple, cette année, je participe dans le comité d'organisation d'un congrès, mais qui va se trouver au Maroc. Mais c'est le congrès international avec la participation des gens de plusieurs pays. Mais également, j'organise les meetings, les workshops ici dans la région. Et là, actuellement, il y a aussi le réseau qui s'appelle IonTrack. C'est vraiment le réseau de recherche contre le cancer européen. Et je fais partie du pilotage de ce réseau. Et on organise les meetings, les réunions régulièrement. Donc, à Lille, c'est prévu l'année prochaine.
Donc toute cette recherche, elle aboutit souvent à des applications, à des mises en pratique, notamment au niveau des médicaments, voire de technologies sophistiquées de diagnostic. Et tout cela, ça fonctionne en termes de réalisation avec des laboratoires, mais des laboratoires privés qui produisent des médicaments et qui les répandent autour du monde. Et aussi d'appareillage. Est-ce que dans ces domaines-là, vous êtes en lien avec ces laboratoires, ces sociétés qui produisent, diffusent donc des matériels et des médicaments?
Tout à fait. Nous travaillons en collaboration avec les grandes boîtes pharmaceutiques, comme par exemple Pierre Fabre ou Johnson & Johnson. Mais également, nous travaillons avec le laboratoire de recherche à Lille 2, qui, eux, essayent de proposer l'imagerie focalisée pour repérer les tumeurs de la prostate de manière très précoce et donc de développer les nouveaux appareillages pour pouvoir faire ce diagnostic à temps.
Alors, est-ce que ces appareillages, qui forcément coûtent très cher, ont une chance de pouvoir se développer à la lueur des problèmes rencontrés par la sécurité sociale ou le budget consacré à la santé? Est-ce que vous jugez que les progrès scientifiques sont suffisamment en adéquation avec les budgets de l'État ou des services sociaux ou la sécurité sociale, par exemple?
Encore une fois, ce n'est pas mon métier, parce que je suis chercheur, je ne suis pas un médecin vraiment praticien, mais d'après nos collaborations avec les médecins, ces techniques sont souvent déjà en place. Donc, par exemple, ici à Lille, il y a déjà des robots qui fonctionnent et les malades peuvent déjà profiter de ces nouveaux avancements.
Voilà, donc est-ce que votre service, vous pouvez en donner le nom et est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut renvoyer les gens qui nous écoutent pour avoir davantage d'informations?
Oui, moi je pense que ici à Lille, il y a la possibilité de trouver toutes les réponses nécessaires au CHR de Lille, où il y a le service d'urologie qui peut répondre à toutes les questions des malades, surtout qui s'intéressent au cancer de la prostate.
Voilà, eh bien, nous sommes très heureux de vous avoir accueilli, Madame Nastasia. Madame Natalia Prevaskaya, si vous aviez un souhait, un vœu à formuler pour l'année ou pour les années qui viennent, ce serait lequel?
Ce serait avancer un peu plus rapidement sur ce qui nous intéresse. Dans notre cas, c'est le domaine biomédical du cancer et trouver, comme je vous ai dit au début de cette soirée, c'est trouver vraiment de nouveaux marqueurs pour les diagnostics précoces.
Et je vous remercie beaucoup et très bonne recherche.
Et merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir.